Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Là, là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ? Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans l'épisode numéro 15 du Raisin et des Papilles. Salut Adrien.
Salut Mickaël, salut à tous.
Comment tu vas ?
Bah écoute, super bien, ça fait plaisir d'être dehors pour une fois et de pouvoir enregistrer pas loin des vignes, ça fait vraiment plaisir.
Alors, je vous explique le panorama, nous sommes assis dans un chemin autour, il n'y a que des raisins qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être vendangés. Vous avez au plus loin la forêt noire, la plaine d'Alsace, on est juste très bien, il ne fait pas très chaud, il y a un peu de vent, c'est juste agréable. Alors aujourd'hui nous sommes à Orschwiller. Est-ce que tu sais que c'est la deuxième fois que nous sommes à Orschwiller ?
Oui, j'ai quand même un minimum de... oui, tout à fait, c'est la deuxième fois. On était allé pour l'épisode 2, je crois, c'est ça, si ma mémoire est bonne.
3 et 4.
3 et 4, oui, bon, la deuxième vigneron qu'on allait voir, plus ou moins.
C'est ça. On était chez Jean-Yves Farrer, donc le parrain numéro 2, que d'ailleurs que j'ai vu, qu'il y aura un épisode spécial avec lui, puisque... On a un petit peu avancé sur certaines questions qu'il nous avait lancées dans le podcast. Donc vous découvrirez ça dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Aujourd'hui, on est passé de Jean-Michel Dais, donc les épisodes 14, donc partie 1, partie 2. Et on est chez un jeune vigneron, je crois même... Alors on en a parlé dans la voiture, Adrien, je crois que c'est le plus jeune.
C'est fort possible, 1995, c'est ça.
Alors, nous sommes au domaine Engel, je le dis bien.
C'est ça, très bien.
Ah ouais, je suis un Alsacien. Voilà. Donc, c'est le domaine Engel. Alors, nous sommes chez Pierre. Salut Pierre.
Salut Mickaël, salut Adrien. Bonjour tout le monde.
Comment tu vas ?
Bah écoute, ici on est bien, hein. Entouré de vignes, sur le Grand Cru près Lattenberg. C'est vraiment chouette, on a une belle vue. Il fait beau, pas trop chaud, des bonnes conditions quoi.
Il y a une question que je peux commencer à poser parce qu'on a quand même commencé à avoir quelques épisodes à notre actif.
J'ai prononcé Engel déjà, donc moi j'ai déjà tort là-dessus.
T'as prononcé quoi ?
Je prononçais Engel déjà, donc déjà j'ai tort là-dessus. J'avais la musique en tête pendant tout le trajet d'aller, forcément.
Et mais bon, on va s'occuper de ton cas quand même. Il faut quand même que je fasse quelque chose avec l'Alsacien. Dans tous les cas, c'est le plus jeune vigneron. T'as déjà écouté des épisodes du Raisin des Papilles, parce que l'avantage c'est que maintenant on peut poser cette question là.
Alors oui, pour le coup, oui, j'ai déjà écouté justement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le format. Et donc je trouve ça vachement intéressant d'intervenir dedans. Et puis les reportages sont toujours constructifs. On peut écouter vraiment la parole de chaque vigneron librement. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça permet d'agrandir aussi sa propre ouverture d'esprit et de voir un peu comment les collègues pensent finalement ce qui peuvent des fois nous conforter nous-mêmes dans notre propre pensée, quoi.
Après, c'est vrai qu'on dit souvent, c'est vrai, il y a une certaine émulation qu'il y a dans, parmi vous, parmi ce groupe, alors essentiellement, alors je ne sais pas si c'est juste de l'association des vins limes d'Alsace ou pas, mais en tout cas, il y a une belle entente entre vous, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va parler de l'histoire de ton domaine. Donc, on est à Archviller, on est au pied, donc c'est le village dont appartient le Haut-Königsbourg. Oui, j'avais mis. Au Königshofen, Gina, c'est pas ça. Donc le Königsbourg, d'ailleurs, je l'ai vu en arrivant. Et l'idée, c'est de parler de ton domaine, de parler de toi, de tes valeurs, de ce que tu défends. Et puis évidemment, on va goûter tes créations. Ça te va comme programme ?
Très bien, on peut commencer.
Parfait. Alors, on va remonter en 1958, tu n'étais pas né, je crois bien.
Non, pas encore. Pas encore dans les projets même.
Je crois que c'est le grand-père qui a monté le domaine, c'est bien ça ?
C'est ça, c'est le grand-père Raymond. Et avant, comme toutes les familles viticoles, toutes les grandes maisons viticoles alsaciennes, on a toujours une histoire qui est assez grande. Et puis d'abord, c'était l'arrière-grand-père, Alphonse, qui avait aussi des vignes. Donc ensuite, mon grand-père les a récupérées, il a continué. Et donc en 1958, c'est là où ils sont vraiment spécialisés un peu plus dans la viticulture. Malgré tout, il y avait encore des animaux. Donc toujours la polyculture, qui est même dans l'agriculture en général, dans la viticulture en général, quelque chose qui était commun. Ouais, c'était un peu quelque chose de commun, quoi. Et donc ensuite, on a commencé en 1958. Donc avec très très peu de vignes, comme tout le monde. Et puis par la suite, on a évolué. Il y a eu ensuite l'arrivée de mon grand-père sur ce grand cru-là près Lattenberg. Donc on a un domaine qui est constitué en fait de 20 hectares en tout. Donc tout en agriculture biologique depuis 2014, certifié. Et donc on a 13 hectares d'un seul tenant sur le grand cru près Lattenberg. Donc on a 8 hectares classés en grand cru près Lattenberg et 5 hectares qui gravitent en fait autour de ce grand cru-là. Mon grand-père, mon père et mon oncle Christian, et donc en fait eux ont tout simplement acheté au fur et à mesure du temps des petites parcelles à droite à gauche, alors soit de vignerons, soit de familles qui étaient issues de vignerons. Il y avait même des jardins ouvriers. Une grande partie appartenait aux industriels de Célestat, et donc mon grand-père tout de suite dès le début a misé sur les coteaux, tout de suite l'arrivée du tracteur des glyphosates, je pense à ce moment-là. Dans les années, fin des années 50, a dû faire monter le prix dans des terres dans les plaines parce que le matériel était là, l'évolution technologique quoi était là. Donc lui, partant de presque rien, est venu s'installer en haut quoi, donc sur les coteaux. Et mon père Hubert et Christian, mon oncle, ont toujours continué du coup à s'expandre vraiment sur le coteau. Et à essayer de valoriser vraiment ce coteau-là du Prélatenberg, qui est assez unique dans le sens où c'est un coteau qui est entièrement en gneiss, avec un sous-sol qui est quand même assez profond. Donc on a quand même un peu d'argile dans le sous-sol, mais ça reste relativement une terre légère en surface avec énormément de cailloux. Et donc on a continué à bosser là-dessus, et aujourd'hui c'est une réelle chance quand on voit la qualité des vins qui sont issus de ces terroirs-là et de ces vignes-là qui commencent à être âgées. On commence à avoir une moyenne de plantation dans les années 80. On a eu énormément de plantations dans les années 80. Donc on touche très clairement vers les 40 ans, plus les anciennes vignes. Donc en fait, on continue l'histoire tout simplement. Moi, je suis arrivé en 2018, avant les vendanges. Donc en juillet 2018, auparavant, j'ai fait des études en droit et gestion. Ensuite, j'ai arrêté. Licence obtenue. On évolue dans sa tête, dans sa manière de penser. Et on se pose des bonnes questions. Et dès qu'on a trouvé les réponses, on se lance. Donc moi, la réponse était simple, c'était reprendre le domaine. Donc je me suis lancé. J'ai repris du coup des études en viticulture œnologie, un BTS, à Roufac, en une année. Contexte assez particulier, mon oncle étant à la retraite, mais qui travaillait encore un peu au domaine, parce que mon père ne pouvait pas gérer tout seul. Il a fallu trouver une solution rapide. Mais en même temps, avec le recul que j'avais sur un peu les études nous ramènent quand même une réflexion, un recul qui est important, je trouve, dans le métier de la viticulture. Je me suis dit, je peux pas juste faire un truc bêtement et ensuite me lancer dedans, ça fonctionne pas. ça va pas fonctionner, on va tout droit dans le mur. Alors j'ai fait ce BTS viticulture œnologie en une année et en alternance au domaine d'Ice à Bergheim. Voilà, chez Jean-Michel et Mathieu. Donc c'est là pendant un an où j'ai découvert réellement le travail de la vigne, l'excellence du travail de la vigne. Et donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite percuté. Clairement, hein, ça m'a interpellé et j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment, notamment à travers la dégustation. Et donc après, j'ai passé une année où j'étais en BTS, où j'ai énormément dégusté de domaines, finalement en Alsace, donc de tout milieu. Je fais du nord au sud de l'Alsace, hein, je pense que je dois avoir mon actif peut-être certainement une centaine de domaines, je pense, en dégustation. Et donc sans forcément me présenter, hein, tout simplement venir et puis aller déguster. Et puis je voulais connaître ma région, l'apprendre, savoir ce que le voisin fait, tout simplement. Juste pour ma culture personnelle. Et ensuite, moi, me situer et savoir ce que j'ai envie de faire. Donc je me suis donné un an pour faire ça. Ensuite, 2018 arrive, les vendanges. Pouf, première vinification. Voilà, tout de suite lancé dans le grand bain. Mon oncle m'a un peu aidé, et puis après c'est vrai que travailler à deux en cave c'est toujours assez compliqué. Chacun a sa vision, voilà, tout à fait. Donc on partageait pas forcément la même vision, mais on avait un but commun. Donc ça fonctionne déjà pas mal. Et donc on a travaillé un peu ensemble, et puis après tout simplement il m'a laissé la main en voyant que voilà, ça fonctionne aussi, quoi. Donc mon papa, lui, étant plutôt un homme, je dirais, un peu de l'ombre, hein, il aime pas trop trop s'exposer. Lui travaille vraiment la vigne de A à Z, quoi. C'est vraiment son truc, quoi, être dehors, être dans les vignes. Quand on a une surface de 20 hectares, à un moment donné, il faut aussi scinder les choses, quoi. Alors moi, j'y suis aussi l'été, mais c'est vrai que c'est assez compliqué d'y être toute l'année aussi. Il y a d'autres choses à faire, d'autres choses à gérer. Donc voilà. Et donc voilà, 2018, premier millésime, et puis 2019, deuxième millésime, et puis là j'ai commencé à faire un peu comme j'avais envie, très clairement. Donc 18 m'a permis en fait de clairement me former, de savoir comment, pourquoi, comprendre le métier. En fait, tout simplement comprendre le métier, une partie du métier, une partie plus technique du métier. Et 2019, bah, c'est le début de mon apprentissage. L'apprentissage des terroirs, l'apprentissage d'une vinification qui est entièrement respectueuse du raisin qui a été fourni par les vignes. Et pareil, une approche de la viticulture qui par la suite est complètement différente. Donc, 19 a été un millésime qui était en fait qui a répondu à pas mal d'interrogations que j'avais et finalement qui m'a conforté sur certains choix qui étaient vraiment. Des idées qui ont émergé pendant les vendanges 18 que je n'ai pas pu faire, et donc en 19 je les ai faites, et puis ça m'a conforté très clairement. Là, quand je vois ce qui est en bouteille, c'est ce qui, pour moi, ça me conforte, c'est vers quoi j'aurais bien avancé, quoi.
Donc tu as fait ton stage chez Jean-Michel Dice, épisode 14, qui est genre sorti le jour où on enregistre, puisque c'est le 25 août. Qu'est-ce qui t'a apporté?
Bah, c'est un personnage qui est quand même mine de rien assez mystérieux, très complexe. Il faut beaucoup analyser ce qu'il dit, et donc c'est vrai que ce sens-là de l'analyse, moi personnellement, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui sort très vite, qui te sort toi-même très vite de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est quelque chose qui est dans un métier comme le nôtre, où on maîtrise éventuellement la vinification, et encore, on ne maîtrise pas grand-chose, mine de rien, ça reste quelque chose de très naturel. Et donc, il vous sort de cette zone de confort, et au niveau du travail aussi, sur l'exigence. Et puis voilà, moi, après, je le vois même avec mon père et mon oncle, hein, si on veut quelque chose, et même plein d'autres vignerons, plein d'autres métiers. Si on veut faire quelque chose de qualité, il faut travailler. Le premier mot d'ordre, c'est déjà remettre le travail à sa place. Donc le travail, très important. Et ensuite, chez Jean-Michel, c'est plus cérébral ce que ça m'a apporté. Plus cérébral que forcément manuel, quoi. C'est vraiment dans l'esprit de réflexion, dans se poser des questions, essayer de comprendre, aller un peu plus loin, un peu plus, aller au bout des choses, aller plus loin encore. Même si le bout, on l'atteindra jamais, mais essayez toujours d'aller plus loin. Et puis, Puis après, je laisse quand même une part personnelle où je me dis, il y a certaines choses que je comprendrai jamais. Et ça, je l'assume totalement. Et ça, c'est la petite part du mystère du vivant. Et cette part-là du mystère du vivant, j'aimerais, je pense, intimement, que j'aimerais pas la connaître. Je la trouve très intéressante, justement, de laisser ce petit côté incertain où on se dit, qu'est-ce que cette année va nous réserver, quoi.
Ok.
Moi, je trouve ça hyper intéressant, la démarche que tu as eue d'aller voir une centaine de vignerons pour prendre du recul. Quelle est, du coup, ta vision sur le vin d'Alsace à l'heure actuelle et qu'est-ce que ça t'a apporté sur le travail que tu souhaitais faire, toi, à ton domaine ?
Alors, en termes de vision, bah, on a une région qui, mine de rien, est très, très riche en terroir. Donc ça, je l'ai aussi appris chez Jean-Michel, parce que c'est vrai qu'on avait aussi... beaucoup discuté de ça, hein. beaucoup, mais par contre on a une diversité de terroirs qui est immense, quoi. Je pense, à mon avis, qu'on doit avoir peut-être tous les types de sols qu'il y a au monde, presque, à mon avis, je dirais, et réunis sur quoi ? Sur 15 000 ou 16 000 hectares. C'est assez incroyable. Un des plus petits vignobles de France, voire même peut-être du monde, qui sait, qui est un des plus riches en termes de terroirs, et ça c'est quand même assez impressionnant. Quand on regarde l'histoire de la géologie alsacienne, c'est quelque chose que je maîtrise à mon échelle, donc vraiment sur mon secteur, parce que j'ai pas encore tout élargi, hein, chaque chose en son temps. Et donc c'est vrai qu'on découvre en fait une diversité de terroirs, donc on a des sensations en bouche qui sont différentes, on a des goûts qui sont différents, des nez qui sont différents, et par la suite on se dit, ah tiens, ça c'est super bon, ah ouais, le toucher de bouche, tout me plaît, mais finalement, quand on est chez soi, on regarde, on peut pas l'avoir, on n'a pas le même terroir, on peut pas l'avoir. Donc ça nous permet aussi après de comprendre le sien et de se l'approprier. Et je veux dire, le gneiss, comparé à du granit en termes de type de sol, vous voyez, hein, c'est tout, c'est pas du tout compact, hein, c'est très friable, c'est sec, on a quand même du caillou, donc... On a des ça nous permet vraiment de connaître, finalement de s'approprier plus son terroir et son environnement, quoi, de travail. Et ensuite, comment je trouve l'Alsace, donc la place de l'Alsace, c'est ça que tu me disais?
Ouais, entre autres, ouais. Je voulais anticiper un peu la question de Mickaël, qui va dire après, pour une fois j'ai envie de la poser. Est-ce que tu...
Non, mais t'as le droit de la poser.
Hein. Attends, il faut que j'essaie de trouver les mots comme toi tu le dis. Il y a une auditrice qui nous a envoyé, voilà exactement, une auditrice donc, qui disait que le vin d'Alsace était un vin ragard. Toi, en goûtant sans domaine, est-ce que tu as trouvé que si on faisait une moyenne de tout ça, le vin d'Alsace était plutôt ringard ou pas?
Parce que ce que tu sais pas, c'est que j'ai une nouvelle question. Ça s'appelle la question Jean-Michel Dice.
Alors, est-ce qu'il est ringard ? Bon, ringard, c'est souvent lié à un effet de mode. Mais la mode, elle est changeante. Donc, je dirais pas forcément ringard, je dirais plutôt dans l'uniformité du vignoble. Alors, on goûte de tout. Il y a de tout. Il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Mais je dirais pas qu'il y a vraiment de très mauvais vins. Ça, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, les œnologues qui interviennent dans certaines caves, machin et tout, on arrive à toujours avoir du vin qui est correct, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, le très mauvais vin, ça existe très peu. On a une culture du cépage qui est omniprésente. Mais par contre, on n'a pas d'uniformité dans les cépages. Donc du coup, on va goûter un Riesling. Alors, on peut avoir un Riesling à 20 grammes, un Riesling à 5, un Riesling à 10 grammes, un Riesling à 12 grammes. Alors oui, le sucre, on va pas. C'est une donnée scientifique, hein, finalement. Mais en bouche, on n'a pas. En fait, je pense qu'on manque un peu. On manque d'uniformité dans le vignoble. On manque vraiment quelque chose qui soit uniforme. Mais pas l'uniformité dans le goût, l'uniformité dans la. Dans le. Comment appeler ça ? Dans la perception du sucre, en fait, si on veut. Souvent, on a, bah oui, des Riesling à 20 grammes, on le sent tout de suite, quoi. Après, je simplifie avec un Riesling, hein, mais Riesling à 20 grammes, voilà, on le sent, c'est sucré, c'est pas très sexy, quoi. Alors qu'un Riesling sec tendu, c'est quand même beaucoup plus sexy. Après, le vin ne doit pas s'arrêter à la définition de la sucrosité. Mais c'est vrai qu'on a une culture du cépage, de toute façon, qui est omniprésente. Et ensuite, la culture des terroirs. Et cette culture-là commence, je pense, à prendre un peu plus d'ampleur que ce qu'il y avait peut-être il y a 10 ans. Alors, il y a toujours des précurseurs, de toute façon. toujours des gens qui ont 20 ans d'avance, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Et je trouve que, et s'en inspirer justement de ces visions-là, on fera pas les mêmes choses, mais par contre la vision, le pourquoi du comment est vachement intéressant à comprendre. Et donc c'est vrai que quand on déguste des vignerons qui nous parlent de leur terroir, qui nous parlent de leur petite parcelle nichée entre deux collines, qui donne un vin qui est complètement différent d'un simple vis de autre chose. T'as pas un autre lieu dit, t'as pas un de ça, d'en savoir plus. Et ça me donne envie limite de visiter la parcelle, quoi. Parce que c'est un lieu, je pense, qui doit inspirer la personne. C'est... Moi, quand je fais un lieu dit, c'est que je suis bien quelque part, quoi. C'est un lieu qui est différent, qui a une énergie qui est différente. Si on n'a pas... Je pense qu'il y a des sols qui ne donnent pas forcément énormément d'énergie. Je pense que on a... Moi, j'ai des terroirs hein, dans les plaines, très clairement, hein, qui donnent des super vins de fruits. Voilà. C'est des super vins plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir de les boire. Mais on n'a pas cette complexité en bouche, on n'a pas le terroir, on peut pas. Je peux pas vous dire si bon, c'est du limon, oui, voilà. Mais je peux vous invoquer tout ce que vous voulez. Mais non, c'est un super vin de fruits. Un super vin de fruits. Voilà, ça s'arrête sur un vin qui est simple. Mais de l'autre côté, il faut pouvoir aussi se dire qu'on a des lieux qui nous inspirent, qui nous donnent une énergie. Le vigneron s'y sent bien. Il faut essayer d'en faire quelque chose. Il faut y voir le potentiel de celui-ci. Il faut pas se dire tiens, on va le noyer dans la masse. Non, justement, c'est des vins de lieu qui nous permettent après d'exprimer le lieu. Et puis le plus beau, c'est quand on va avant les vendanges, quand on va goûter les raisins de ces vins de lieu, et puis quand on goûte les raisins des autres parcelles, on se dit t'as quand même une différence, quoi, quand même un truc qui est différent. Si on les mélange, c'est dommage. Donc c'est vrai qu'en Alsace, on a quand même une forme moi je trouve que c'est pas si homogène que ça, quoi. On trouve de tout.
Et à destination de l'auditeur du Raisin et des Papilles, est-ce que le vigneron alsacien reçoit bien ? Est-ce que tu as été bien reçu comme tu ne t'annonçais pas ? Tu étais comme quelqu'un, comme n'importe qui, comme n'importe quel auditeur ?
Je prétends pas de toute façon être reçu d'une manière très spéciale par quelqu'un, mais non, moi je trouve qu'en Alsace, honnêtement, déjà les portes... porte et cave ouverte. Très peu de rendez-vous. J'ai pris quelques rendez-vous quand même, dans certains domaines où on sait que c'est moins accessible. Mais c'est vrai qu'il y a. Non, on y va, on se gare dans la cour, on rentre, on dit bonjour, on voit des fois le papy qui se balade encore dans la cour. Ça reste très familial, très, très ouvert. Moi, je trouve ça vachement agréable. Généralement, c'est des endroits où on s'y sent bien, quoi. Les caveaux alsaciens sont des endroits où on s'y sent bien.
Je vous propose qu'on continue cette discussion, mais il y a un Crément qui attend qu'une chose, c'est d'être ouvert. Il prend le soleil, c'est aussi pour ça que je me dis, du coup, on avance un petit peu, mais on continue une place à la dégustation.
Jetzt Trinkemer.
Hey, c'était toi qui vas faire le jingle. Tu me disais
Before Fin Trink, Divine Prop.
Avant de boire du vin, il faut d'abord les déguster.
Tu parles alsacien ? T'as compris quelque chose ?
C'est très compliqué.
Moi non plus, j'ai rien compris.
Comment ? Elle n'existe pas, cette expression.
On va noter l'intention.
Ah non, ça va être une petite... Ça, je vais le couper, je vais le mettre sur Instagram. Extrait. Alors là... Oh. Moi aussi, je peux être machiavélique quand je m'y mets.
J'assume tout.
Oh bah c'est bien. De toute façon, avec moi, t'as compris que t'as pas trop le choix, en fait. Alors non, j'ai dit une bêtise dans la voiture, parce que j'ai dit on n'a jamais... j'ai dit qu'on n'avait jamais enregistré de Crément, et ben c'est pas vrai. On en a enregistré un chez Aquilé. C'était sa Solera de Crément.
Ah oui, c'est vrai.
Cave.
Ah, mais c'est 2016 aussi, là, ce que tu nous fais goûter. Ouais, c'est peut-être le cépage aussi, enfin le millésime, je veux dire, qui retransmet. Je trouve qu'on est, on a ce côté un petit peu oxydatif, mais dans le bon sens du terme, qui est vraiment intéressant.
Il y a de la brioche, il y a un peu beurré.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu pâtisserie au raisin.
En fait, je trouve que tes vins sont ouais, moi, j'aime bien, hein, j'adore ça. Ils sont assez gras.
Ouais, on les récolte mûrs. On récolte les raisins très mûrs. Donc ensuite on les fait fermenter jusqu'au plus possible, hein, genre jusqu'au bout. Et puis c'est vrai que l'élevage, par contre, moi je travaille beaucoup sur l'élevage. Donc c'est vrai que l'élevage apporte énormément de gras dans les vins. Mmh. Et donc forcément, après on le ressent dans le verre, quoi. Notamment là sur ce crément là qu'on déguste. Donc c'est un crément brut nature. Donc il y a aucun dosage dessus. Mmh. Donc c'est un crément pinot blanc, pinot gris. En assemblage avec, en prise de mousse, du jus de pinot gris. Donc ensuite, on va faire la prise de mousse classiquement. Pendant, ça doit durer 3 semaines, la fermentation en elle-même. Et puis ensuite, il reste sur l'âtre pendant 24 à 36 mois. Tout dépend aussi de la rotation de stock, mais généralement, c'est au moins 24 mois. Donc c'est pour ça qu'on est sur 2016. Après, là, sur ce crément-là, on a quand même un bel élevage dessus. On a un travail qualitatif au point de vue des raisins qui est fait. Et ensuite, on est vraiment sur une fine bulle, quoi. On est sur quelque chose qui a été élevé pendant 2 ans, donc forcément la bulle s'affine, une fermentation lente mais régulière, ça c'est le but. Donc vraiment, quand les créments fermentent, on les met dans une cave qui fait à peu près entre 16 et 17 degrés, quoi, pour que ça fermente lentement. Donc après, on a vraiment des fines bulles. Et ensuite, c'est vraiment le respect du raisin avant tout qui fait qu'on a un super vin à la fin. Et là, dans ce crémeau-là, notamment, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est que c'est vachement vineux, quoi. On n'est pas du tout sur le crémant avec les grosses bulles ou quelque chose de très, 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 très pétillant qui vient péter en bouche. Là, on est sur quelque chose de vineux, quelque chose qui est gastronomique, quoi.
C'est gastronomique et pourtant il y a quand même le côté fraîcheur, le côté...
Ouais, mais tu t'imagines beaucoup plus facilement manger avec, quoi. C'est pas juste un vin d'apéro pour rigoler, c'est vraiment...
Donc ta moustache frétille.
Voilà, ma moustache frétille.
Je suis content que... Ah oui, avec Jean-Michel Dier, j'ai pas pu en passer une. J'ai trouvé plus bavard que moi et pourtant, question bavard, je suis pas mal non plus. Hein. Et ça, c'est souvent des clients qui me le disent ou des gens avec qui je discute, que les créments d'apéritif... nature ou biodynamie coûte cher. Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer rassurer les gens?
Notamment sur la qualité. Aujourd'hui, quand on regarde, je fais une comparaison assez bête, la Champagne, on n'est pas sur les mêmes terroirs, on a des cépages qui sont aussi différents. Mais quand vous regardez après la qualité des vins, vous les dégustez à l'aveugle, avec une chaussette sur les bouteilles. Et c'est là où clairement... on se dit, pourquoi moi je vous propose un crément gastronomique à la place d'un mauvais champagne pour le même prix.
Après, un crément d'Alsace dans lequel on met des glaçons, c'est 10 balles hein, quand même. Hein.
Ça c'est vraiment impressionnant ça.
Ah, oui. Donc, mettre 3 euros dedans pour avoir un vin qu'on dit tu peux déguster, t'es pas obligé de mettre des glaçons dedans pour essayer de camoufler le goût et tout ce qu'on met dedans, ouais, ça se tient, je pense. Ouais. Je sais pas combien il sort ce vin-là du coup en prix domaine.
Alors ce vin-là n'est pas vendu en domaine directement actuellement. Il va être proposé dans les prochains temps. Pour l'instant, il est réservé aux professionnels, donc notamment aux cavistes et aux restaurateurs aussi.
Les cavistes à peu près, on trouve à combien
sortir aux alentours entre 16,50 et 17,50, je dirais, dans ces eaux-là.
Les clients qui goûtent un vin comme ça, qui est complètement différent d'un crément déjà dosé, nous on a l'habitude de boire des créments non dosés, mais là il y a quand même quelque chose d'assez droit. Il y a une bulle qui est beaucoup plus fine. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ton crément? Quelqu'un qui vient pour la première fois à ton caveau, qu'est-ce qu'il te dit?
Je l'avais fait déguster à un client, je m'en rappelle. Il m'avait demandé si j'avais un deuxième crément, et puis j'avais celui-là sous la main, évidemment. Et donc, je lui ai fait goûter, et il est reparti avec quelques caisses, quoi. Il a vraiment, pour le coup, il a vraiment adoré. Il n'a pas forcément tiqué sur le tarif. Lui, c'était vraiment la sensation en bouche que ça lui a fourni, quoi. Cette salivation... cette droiture aussi, ce côté assez quand même vif, et donc ça lui a beaucoup plu, quoi. Et surtout le côté salin, hein, quand il a dégusté, que ça lui a fait saliver en même temps, il m'a dit c'est assez impressionnant, quoi. Ça lui a beaucoup plu. Et donc je pense que c'est ce vers quoi il faut expliquer après au consommateur. Voilà, ok, mon vin est peut-être un peu plus cher que certains vins, certains créments alsaciens, mais par contre on vise une certaine qualité, une certaine sensation en bouche. Alors c'est une texture aussi en bouche. Donc quand on arrive à avoir ça et à le justifier et à l'expliquer, après le prix pour moi c'est une question de c'est une question après de aussi de pouvoir d'achat, mine de rien, clairement hein, aujourd'hui ça joue beaucoup, mais c'est assez subjectif comme question, quoi.
Place au deuxième.
Au deuxième vin.
Ouais, deuxième vin. Alors ce deuxième vin, alors c'est un vin dont la robe est rouge. A priori rouge. Tu disais quoi?
A priori rouge.
J'ai envie de dire Pinot Gris de macération, comme ça, parce que c'est un rouge assez léger, assez pâle. Mais voilà, ce que je disais en off, c'est que la vue nous joue des tours. On a déjà envie d'avoir un avis sur le vin. Et on commence déjà à le juger avant même de mettre le nez dedans, ce qui est une tristesse absolue.
Ah, c'est ça. Ben, commençons à mettre le nez dedans. Ouais, ouais.
Je pense que j'ai eu tort, d'ailleurs, en mettant le nez dedans.
Ah si, un peu de macération, quand même.
Bien sûr, il y a de la macération. Ouais. Faut que je vous raconte tout de suite l'histoire.
Déjà, essayons de savoir ce que c'est. Puis après, tu nous racontes, il était une fois. En fait, je me suis levé ce matin, je savais pas trop où on allait. Parce que j'ai goûté tes vins, mais c'était pas du tout cela, au salon, j'avouerai. Mais j'avais pas plus a priori que ça, tu vois. Après, si je peux, bah déjà bio, je trouvais ça bien. Après, j'avais eu vent que tu faisais quelqu'un de la nature, mais pas trop de communication dessus. Puis il y a des choses que, à un moment donné, j'ai pas regardé ton mur Instagram parce que je vais être complètement. Je veux pas savoir ce qui se passe. Ouais, j'avoue que. J'adore ce genre de claque. Vraiment. Un avis ? Monsieur, bonjour.
Je suis perdu. Je suis un petit peu perdu.
C'est génial, non ?
Ouais, bah en fait, à la couleur, j'aurais dit Pinot Gris de macération, ce que tu as confirmé. Au goût, je partirais plutôt sur un Pinot Noir, mais avec pas trop de macération, justement. Quelque chose d'assez léger. On le situerait peut-être même pas en sort un peu des sentiers battus. Donc, je sais pas, j'attends le « il était une fois », comme tu disais, pour en savoir un peu plus.
Alors,
il était une fois. Non, donc en fait, on est sur un pinot noir en macération. Je dis classique, pour moi c'est 3 semaines de macération, grappe entière, non dégrappée donc, issu du Boxberg. C'est un terroir qui est au-dessus du Prélatenberg. Donc si vous tournez la tête vers la droite, bah, vous avez juste la vigne. D'où vient le... Donc là vous avez ici des pinots gris, et là juste derrière vous, vous avez les pinots noirs Boxberg, vraiment juste à côté. Vous pouvez même manger les raisins. Et donc c'est un lieu en fait qui est entièrement sur Gneiss, mais on est sur une partie haute du Grand Cru.
J'ai arrêté l'interview parce qu'on va se diriger vers les vignes, si déjà elles sont derrière nous. Du coup, je t'ai coupé dans ton histoire.
Oui, donc en fait c'est un terroir de Gneiss. Donc on est sur une majorité quartz mica au niveau des pierres, avec, comme je vous ai expliqué au tout début, un sous-sol en fait qui est argileux. Et donc on est vraiment, la parcelle est vraiment sur le dernier flanc du Prélatenberg, et le bout de la parcelle arrive sur la forêt quoi. Donc on est sur une parcelle qui est assez âgée, on est sur plus d'une cinquantaine d'années, avec des pinots noirs qui sont issus de Massal, une sélection Massal. Et donc on arrive sur des goûts après en bouche, une complexité qui est assez impressionnante, et une certaine aussi buvabilité. J'aime beaucoup les vins qui ont des vins suffiques quoi. Alors, il y a une bonne buvabilité hein, clairement.
C'est très bon.
Et donc on en arrive là avec un super terroir, des super vignes qui sont très bien entretenues en termes de matériel végétal hein, bien sûr, et avec un respect des travaux en verre qui nous permet de garantir une qualité optimale quoi. Honnêtement c'est le but quoi, avoir vraiment une qualité optimale de raisin.
T'as une forêt derrière, t'as donc, pas de voisin direct, t'as la forêt derrière, c'est intéressant.
On a une partie plus fraîche.
Alors moi il y a quelque chose que, alors bon c'est vrai qu'il y a un peu de sécheresse, mais en fait quand je suis arrivé par Célesta, j'ai vu que la plupart des vignes, il y avait plus d'herbe entre les vignes. Alors ça me fait souvent penser à Théo Schlegel aussi. T'es un peu dans cette lignée là, laisser pousser, place à la biodiversité et rien d'autre, et pas la main de l'homme.
Alors on fait notre propre compost, donc on va chercher le fumier chez un éleveur bio, donc il a des chevaux essentiellement. Donc en fait on a un champ là-bas où du coup on composte alors les excréments du coup des chevaux. Et ensuite c'est le seul amendement qu'on va faire dans les vignes, très clairement, et on le met pas forcément partout. Et après en termes de travaux du sol, comme vous pouvez voir, il y a quand même un rang qui est travaillé. Donc il est travaillé en partie, donc on va surtout le travailler en début de saison, au moment de la phase végétative de la vigne. Et ensuite c'est vrai qu'on va moins le travailler. Le cavaillon, donc c'est la partie qui est entre les pieds de vigne, là ça c'est travaillé. étant donné qu'on a des sols très légers, si on laisse vraiment pousser toute l'air, par contre, on arrive sur quelque chose qui nous convient pas forcément. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un rang où on laisse totalement l'herbe spontanée, et puis on passe juste un coup de rouleau faca au moment où l'herbe est mûre, pour vraiment la pincer, et de façon à ce qu'elle ne pousse plus, que ça nous crée quand même un tapis végétal, quoi.
Alors justement, pour les auditeurs qui ne sont pas des vignerons, alors moi je vais goûter un petit raisin avant de te poser la question, parce que franchement il me regarde avec tes yeux, goûte-moi. On est quand même à quelques jours des vendanges. Comment est-ce que tu sais que le raisin est mûr?
Alors on fait le tour des vignes pour commencer. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on récolte environ 200 baies sur chaque parcelle. Donc on les met dans des sachets individuels, et ensuite on va les goûter. Donc on sait, du coup on sait de quelle baie vient, enfin de quelle parcelle vient chaque baie. Donc ensuite on va les goûter. Et puis une fois qu'ils sont goûtés, on va mesurer le taux d'alcool aussi, potentiel. On va commencer par ça. Et puis après, on arrive nous à nous situer à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment, dans quel ordre. Et donc ça va durer tout le long des vendanges. Vraiment aller dans les vignes, voir la parcelle. Il faut bien sûr mesurer le degré alcoolique potentiel, il faut regarder aussi les pépins. Si les pépins sont aoutés, donc sont bruns, c'est que généralement ton raisin est mûr. Si ta vigne aussi envoie des signaux de feuilles tombantes, voilà, des signaux un peu automnales, c'est mûr aussi. Et donc on a plusieurs signaux que la nature nous envoie, et c'est que c'est mûr, quoi. Notamment on peut remarquer ici avec les sangliers qui viennent manger les raisins. Donc quand ils viennent vraiment beaucoup piocher dans les vignes, c'est que c'est mûr.
C'est bon.
Voilà, c'est que c'est bon.
Les sangliers savent mieux que l'homme.
C'est ça. Les sangliers. Une petite question.
T'as un peu de sucre dedans, ou c'est parce que je viens de prendre un raisin que... Ouais, ça doit être ça. J'ai encore le fond du raisin qui arrondit un petit peu ça.
Non, pas du tout. Il y a un an et demi d'élevage sur lit, du coup. Mm-hmm. Comme c'est un 2018 qui a été mis en bouteille en fin février, donc on arrive sur un an et demi presque, hein, d'élevage sur lit. Voilà, tout simplement.
Alors, je suis pas très pinot noir. Et là, je dois dire que je me suis pris une belle claque. Tu t'attendais à ça ce matin?
Je ne savais pas non plus exactement, mais c'est ça qui est bien. J'essaie de ne pas me renseigner non plus avant. J'avais eu l'occasion de goûter une ou deux fois, mais tes cuvées un peu plus classiques, effectivement. Donc, non, c'est hyper intéressant. C'est très, très bien. Moi, j'aime bien le pinot noir habituellement. Je trouve qu'en Alsace, on fait des choses de mieux en mieux. Il y a beaucoup de domaines maintenant qui font des très jolis pinot noirs. Donc, c'est toujours un plaisir de conforter cette idée. Et il faut le faire goûter aux Alsaciens. C'est bon.
Amis Alsaciens, amis Strasbourgeois, restaurateurs Strasbourgeois, vous avez un petit vigneron qui est en plus tout jeune. En plus, il fait du rugby. Donc, vaut mieux pas trop le chercher. Mais qui est très souriant. Profitez-en, 20 km, allez 40 parce que c'est 40 en voiture. Voilà, c'est pas non plus. Allez le voir. Alors, après la visite de ce lieu majestueux,
place au troisième vin.
Ah là 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 là, c'est exactement le genre de couleur que j'aime bien. Alors, moi j'avais repéré dans la visite, donc ce matin on a visité la cave et j'avais repéré cette petite étiquette qui me plaisait bien. Alors, c'est mon côté. Pierre de la Lune, au clair de la Lune. Ouais. Un peu. Alors, bon, j'ai compris depuis un certain temps que nos chers amis vignerons étaient parfois des grands poètes qui s'ignorent. Alors, je parlais des calligrammes de Philip Brand sur les bouteilles, même Jean-Michel Daïs dans sa façon est un grand lecteur et un grand poète. T'es un grand poète?
Poète, non, je suis quand même.
Rêveur?
Rêveur, ouais. Je suis un rêveur. Ma mère me dit toujours, je suis à toi en Espagne, quoi. Même mon père, hein. Je suis un grand rêveur. J'ai des honnêtement, j'ai des idées à la seconde. J'ai des milliers d'idées dans la tête, quoi. De nouveaux vins, de nouvelles techniques. Enfin, essayer des choses, quoi. Des assemblages improbables, plein de choses. Et en vigne, c'est pareil. J'ai tout le temps plein d'idées. J'essaye. Alors, bien sûr, je peux pas tout faire. Et ce qui est bien, c'est que dans un an et demi, il y a mon grand frère qui va me rejoindre, et lui a un côté plus pragmatique. Donc lui arrive très bien à me canaliser et à me dire ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire, ça tu pourras faire, ça tu ne pourras jamais le faire. Donc c'est assez chouette. Et c'est vrai que ce vin, du coup, je l'ai appelé Cosmopolite. Parce que c'est, bah, on regarde bah, les villes, bah, New York, hein, forcément. Hein. C'est une unité de plusieurs cépages qui sont macérés ensemble et ensuite qu'on va élever ensemble. Donc il y aura une harmonie qui va se faire. Donc un peu comme c'est un peu une société idéale, on peut dire ça, si on veut.
On dirait que tu fais le pitch de Starmania, là.
Non. Et puis, Et puis j'ai mis, en fait, et puis l'étiquette représente bien un peu ce que j'ai dans la tête, quoi. Mon côté vraiment rêveur, un peu sur la lune, quoi. C'est peut-être pas pour rien que je m'appelle Pierre. Mais c'est vrai que ouais, j'ai un côté rêveur, quoi. Je rêve constamment. Je suis tout le temps dans l'espace, en train de m'imaginer des choses. Et me dire, tiens, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça, et ci, et ça. Et si on faisait comme ça. Et ouais, non, ça me fait rêver, ce genre de choses. Et quand on voit la nature, comment elle évolue et ce qui se passe tout au long de la saison, bah, on se permet de rêver à tout moment. Et je trouve que rêver, ça nous permet de nous garder une certaine jeunesse et certaines... je trouve peut-être une certaine aisance d'esprit aussi.
L'insouciance.
Ouais, l'insouciance. Je suis insouciant, ouais, clairement. Ouais, il y a des moments où je peux paraître très, très, très insouciant.
J'aime beaucoup. Tu es insouciant, toi ?
Pas suffisamment, malheureusement, mais c'est la troisième étape de l'homme, je crois, d'après Nietzsche. Donc voilà, je suis encore à l'étape du dragon, je crois, si j'ai bien l'allégorie bien en tête. Mais non, pour l'instant, le nez me plaît beaucoup. Il y a quelque chose qu'on entend beaucoup dans le monde du vin, c'est que les vins oranges, des fois, ne retransmettent pas le terroir et qu'on sent toujours la même chose et tout, parce que c'est la macération apporte ce côté orange amer. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Alors, la macération... En elle-même, je trouve que par moment, peut apporter une certaine uniformité dans les vins. Honnêtement, je le dis, il peut avoir une certaine uniformité dans les vins. Mmh. Au nez, avec ce goût justement d'orange amer qui est souvent, voilà, comme tu dis, hein, souvent présent. Ensuite, si on fait de la macération avec des beaux raisins, et ben là, après, en bouche, on a quelque chose de différent, quoi. Et c'est clairement la bouche qui va définir le goût de cette macération. Et donc là, en fait, on est sur des raisins du Prélatenberg, donc sur des pinot gris, du Prélatenberg, quoi. Il y a une petite guêpe qui va nous embêter. Et donc, et pareil, des pinots blancs aussi. Et donc, c'est ce qui nous permet après d'avoir une certaine complexité dans le vin, quoi, très clairement. Et puis, on est sur un élevage d'un an et demi aussi dessus, dont une partie, un élevage oxydatif sur le pinot gris, qui nous a permis, en fait, moi j'adore ces côtés un peu légèrement oxydatifs, et puis après relever ces épices, parce qu'il y a quand même majoritairement du gneiss dedans, et puis le gneiss dans les vins nous ramène quand même toujours vers une acidité, vers un côté très épicé, quoi, dans le vin.
En tout cas, pour revenir au podcast précédent, c'est le plus salivant des trois de très loin. Je trouve que vraiment, t'as pas cette lourdeur-là, t'as vraiment le côté salivant qui reste et qui te tient en longueur aussi, c'est super.
Il est très salivant, il est très gourmand. Alors, à la première bouche, j'ai pas conquis. Donc, j'ai laissé faire un peu les arômes et là, j'ai indiqué mon verre et limite, je regrette. oui. Non, mais c'est ça. Mais en fait... il me vient une question, c'est quoi alors j'ai décidé d'appeler ça la question Jean-Michel Deiss. C'est quoi un grand vin pour toi ?
Un grand vin ? Tout d'abord un grand lieu, et ensuite une bienveillance envers ce lieu. Donc une manière de travailler qui lui correspond, et il faut être bienveillant envers ses vignes, et... donc agir un peu comme un... ça fonctionne pas comme ça, mais il faut agir en fonction du lieu. Il faut le comprendre, il faut s'en imprégner de ce lieu-là. Si on n'est jamais dedans, on peut pas le décrire, ce lieu. Donc il faut s'en imprégner. C'est pas les 40 dernières années qui vont nous dire que ce lieu est exceptionnel. C'est ce qui était avant. Si dans les années 1800, il venait monter, même avant, au 15e ou 14e, s'il venait s'embêter à monter en haut d'une montagne pour faire du vin... c'est quand même des questions à se poser, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas dans les plaines ?
Ils n'avaient pas eu de glyphosate à l'époque.
Oui, c'est vrai. Donc, alors ouais, autant piocher en montagne, quoi.
Peut-être que c'est les 20-30 dernières années où on a eu un peu tort.
Je pense, même peut-être même avant, quand on a commencé à produire énormément. Mais je peux pas. J'ai du mal, en fait, à m'imaginer ce qui s'est passé il y a peut-être 60 ans maintenant, je dirais, presque. Il y a 60 ans. J'ai du mal à m'imaginer parce que j'étais pas du tout dans cette période et j'arrive pas à m'imprégner de cette période-là, de ce monde-là. J'ai du mal à voir comment les personnes ont réagi, pourquoi est-ce qu'elles sont parties vers ce milieu-là. Et vous voyez, c'est assez compliqué.
Je pense le conflit. confort, on a dû leur dire, bah voilà, c'est la modernité, tu vas pouvoir travailler moins, tu auras plus de rendement, ce sera bon de la même façon partout, et puis voilà quoi. Je pense que c'était ça.
Qu'est-ce qu'il pense de ton père de travailler de son fils ?
Oula, c'est une très bonne question. Chez les vignons, ce serait compliqué. Hein. Même, je pense que dans relation père-fils ou mère-fille ou père-fille ou mère-fils, j'ai presque tout dit. dans cette relation-là, dans un monde agricole ou même, je pense, dans un monde d'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Et généralement, ton papa, il va seulement relever tes parents vont seulement relever ce qui est pas bon.
Et voir ton frère te rejoindre, c'est quelque chose qui t'enthousiaste ?
Ouais. Ouais, ouais, ça va être cool.
J'ai l'impression que tu piétines un peu, que t'as hâte que ça se passe, non ?
Ouais, parce qu'on a des projets, on discute beaucoup ensemble, on est un peu sur la même longueur d'onde. Moi, bon, comme dit, moi, j'ai mes délires complètement fous, et puis lui, il me dit oui et non. Donc, c'est assez bien, malgré qu'il commence tout juste, il arrive déjà à me dire ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable.
Le petit frère va vous rejoindre ?
Non, le petit frère, lui, je pense qu'il est parti pour l'informatique.
Ah, ouais. C'est un geek.
Ouais, je pense, ouais.
Bah, il en fait aussi, ça peut te servir aussi.
Ah ouais, bah, aujourd'hui, avec toute l'informatique, tout ce qu'on doit gérer administrativement, honnêtement, ils ont déjà filé 2-3 coups de main sur des petits problèmes informatiques qui nous aident beaucoup, quoi. Puis bon, après, voilà, chacun sa voix. Et puis, nos parents nous ont jamais obligés à aller directement dans la viticulture. C'est vrai que papa aurait tellement voulu qu'on fasse un lycée agricole, enfin le schéma basique, schéma très, qui est tout à fait respectable, honnêtement, mais ce schéma-là agricole, alors qu'on est tous les deux partis vers des études complètement différentes, quoi. Après, bon, le rugby a beaucoup influencé nos choix, mine de rien. On s'est laissé aussi rêver. Il fut un temps où on était ouvert du lundi au dimanche, sauf le 25 décembre. Et le 1er janvier, il me semble. Donc, on avait 2 jours par an fermés. Donc, on voit papa qui travaille du lundi au dimanche, avec un dimanche sur deux, mais qui travaille quand même le dimanche. Et donc, on voyait ça avec seulement un jour de libre. Et puis, pendant ce jour-là, bah, généralement, papa, ce qu'il faisait, c'est la sieste, quoi. Fatigué, il n'avait pas envie de faire quelque chose. Fatigué. Et c'est vrai que c'était un système, nous, clairement, qui nous plaisait clairement pas. Hein. Honnêtement, on n'était pas du tout en phase avec ce système-là. Mmh. Et donc, pour moi, il était clairement esclave de son travail. Donc, le plaisir après au boulot n'y est pas, quoi. Et moi, je me voyais pas faire ça. Donc, je me disais, à quel moment je vais prendre du plaisir en travaillant, même si c'est pour faire du vin. Hein. Comment est-ce que... Et puis, bon, après, fut un temps où on a fermé le dimanche, ça a libéré du temps. Et puis, là, on voyait les années de boulot. Hein. Je pense que pour mon oncle et ma tante, ça doit être pareil. Hein. Les années de boulot, vraiment du 7 sur 7, qui ont beaucoup usé. Et je pense que ça nous a un peu rebuté, quoi, un peu refoulé, hein. Enfin, un peu à l'extérieur. Et donc, finalement, après, le regard, maintenant, aujourd'hui que je vis cette vie-là, maintenant, je le comprends. C'est un peu... En fait, il est un peu de... Enfin, tu donnes un peu ta vie à ton métier, quoi. À ta passion. Parce que si c'est pas ta passion, tu peux tout de suite arrêter de faire de la viticulture. Que tu sois coopérateur, manipulant, ou même, à mon avis, négociant. Si t'es pas du tout passionné par le vin, tu peux tout de suite arrêter, je pense. Donc, toutes les familles de toutes les corporations sont dans le même sac pour moi sur cette passion-là. Et c'est vrai que quand la passion t'anime, bah, finalement, le temps, tu le regardes pas. Et là, du coup, je comprends mon père. Là, je comprends tout à fait. Donc, je vois un peu ce qu'il a vécu. Après, j'arrive aussi très vite à mettre du holà, quoi. Dès que je sens que j'ai besoin d'espace et un peu de vie privée, j'arrive très vite à dire non, stop, quoi. Mais il y a quand même on l'a quand même dans un coin de la tête où le soir quand on va dormir, ben on va penser à notre métier, à ce qu'on a à faire à ce qu'on va faire les jours d'après, à ce qu'on a à faire les semaines d'après. Et ça, constamment, du lundi au dimanche, je pense à ce que je vais faire la semaine, constamment. Ça change pas. Est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que je pourrais améliorer ? Si et ça, constamment. J'ai mon cerveau qui est en ébullition.
Alors cet épisode touche doucement à sa fin. Alors c'est toujours assez particulier la fin d'un épisode parce que finalement on fait une rencontre qui, qui est encore une pierre dans ce que nous on essaie de défendre. Où est-ce qu'il est ton domaine dans... T'as une vision, je pense, dans 5 ans.
Dans 5 ans dans 5 ans.
Déjà, il y aura ton frère.
Déjà, il y aura mon frère. Voilà, on sera sous un arbre cette fois-ci.
Il y aura des arbres sur le pré Lattenberg.
C'est ça, tout à fait. On aura des coussins sur les canapés. Et puis, non, dans 5 ans, bah écoutez...
Je ramènerai des touristes, on fera des randos apéro.
Voilà, tout à fait. Non, dans 5 ans, on aimerait bien arriver à déjà à avoir compris tous nos lieux. Tout, ça va être un sacré défi. Mais nos 20 hectares de vignes, on a, je pense, au moins 15, voire 16 hectares de lieux dedans qu'on pourrait vinifier éventuellement à part.
C'est plutôt pas mal ce qu'ils font, non ?
Bah franchement j'aime beaucoup. Ouais. Là je viens de prendre la dernière gorgée du Cosmopolite.
C'est il est en larmes. Il est triste.
Non c'est une belle rencontre. Je te connaissais pas du tout non plus. Donc c'est vraiment une belle rencontre. Je pense que je me retrouve dans certains passages de ta vie aussi. Et non c'est super.
Voilà pourquoi moi j'ai créé. J'ai voulu faire du raisin et des papilles. Voilà pourquoi j'ai préféré un podcast qu'une vidéo sur YouTube, parce que je trouve que
les vidéos sur YouTube
c'est très bien, mais tu le faisais déjà, je peux pas faire, tu vois, que tu vas commencer, je vais pas marcher sur tes plats de monde.
Bon, il y a de quoi faire, il y a de la place pour tout le monde.
Non mais c'est vrai que en fait c'est toujours moi, j'ai deux envies. C'est un, remettre le vin nature, ou alors si on parle pas de vin nature, de vin de qualité dans les villages, parce que c'est très bien Célestat, Haguenau, machin, c'est très bien. Mais les villages ont droit aussi à avoir ce genre de choses. Et c'est là où il faut mener la réflexion. Et c'est ma réflexion. Et c'est mon combat aujourd'hui. C'est de ramener les vins en Alsace. C'est un peu ce que me disait Arthur Ostertag. Si tu arrives à ramener des touristes, c'est très bien. Si tu arrives à nous ramener des locaux, c'est encore mieux. J'aime bien les objectifs. En tout cas, je crois qu'il faut qu'on défende notre région. Ton vin s'appelle Red d'Alsace. On est, je crois, tous les trois amoureux d'Alsace. On aime notre région parce que je pense qu'elle a un patrimoine magnifique. Elle a tellement à défendre, elle a tellement à nous apporter. Elle a un terroir, une histoire, un patrimoine, une gastronomie. Salut les Corses. Oui, je me protège un peu quand même.
Ils sont pas mal. Hein. Avec les Bretons aussi. Hein,
salut les Bretons et Basques. Bon, il y en a d'autres.
La France qui nous sépare.
Ouais, c'est ça, il n'y a que la France qui nous sépare. Salut les Lorrains. En tout cas, j'ai apprécié. Je savais, comme dit, j'avais goûté les choses. Je te connaissais pas tant que ça, si par Instagram. Est-ce qu'on connaît vraiment les gens par Instagram?
On laisse paraître ce qu'on a envie.
Vous avez 4 heures. Comment t'as vécu ce petit moment?
Bah écoute, c'était vraiment chouette. Accueil sympa, enfin venu sympa, on a bien mangé.
Merci cuisinier. Merci, vraiment fort,
merci beaucoup, c'était super bon. Et le vin qu'on a goûté avec était très très bien aussi.
Et c'est vrai que, et même le vin qu'on a goûté, qui sortira peut-être que dans 3 ans, eh ben on pourra dire, j'étais là.
C'est ça, et puis non, c'est une chouette expérience, pouvoir s'exprimer comme ça sur... un peu sur sa vie, c'est un peu intime hein, ce qu'on raconte quand même, quoi. Je veux dire, je vais quand même parler de ce que j'ai ressenti par rapport au métier de mon père, un peu sur ce que mon parcours, mon ressenti sur mon travail, sur le lieu dans lequel je travaille, et tout ça c'est quand même intime. Et puis c'est vrai que pour un vigneron, c'est compliqué de pouvoir s'exprimer comme ça. S'exprimer avec des mots, c'est quand même quelque chose qui est compliqué, quoi. C'est une expérience qui est quand même assez compliquée. Il faut savoir mettre des mots sur des émotions. Alors je pense que maintenant, si demain je réécoute le podcast, si demain tu me l'envoies, je réécoute, il y a plein de choses que je dirais d'une manière totalement différente qui pourront peut-être certainement mieux passer vocalement. Mais c'était sur le moment, voilà, comment je l'ai vécu, comment j'avais envie de le dire, quoi.
Ça compte, le moment présent. On va doucement quitter Orchelaire. Alors, on va continuer à vous suivre. T'as vu, je suis passé chez Jean-Louis ce matin, donc on suit quand même nos vignerons. Et puis je crois qu'on a un bon petit contact, parce que j'aimerais bien contrer certains books sur Facebook pour amener du côté positif et qu'on communique à nos clients, à vos clients, ce qu'on fait, les événements. Je pense qu'il faut pousser les murs. On se retrouve pour l'épisode numéro 16 et ce sera Christophe.
Christophe Lidenlaube, bien sûr.
Donc à Dorlisheim. Merci Adrien.
Merci Miguel, merci beaucoup encore de cet accueil. C'était superbe.
Merci Pierre.
Bah, merci Adrien et Miguel, plaisir partagé.
Et puis à très bientôt dans Du Raisin et des Papilles.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.